Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
Interview.
L'interview du jour.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWAS sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Aujourd'hui avec moi dans le studio, le docteur Ugren, gynécologue quasi à la retraite et créateur du Centre de l'Aube avec lequel RDWAS a souvent coopéré et qui est venu nous entretenir d'une grande figure spirituelle du XXe siècle en France, à savoir Marthe Robin, qui était à Châteauneuf-de-Galaure dans la Drôme. Monsieur Ugren, bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qui vous a poussé, outre une petite conférence qui a eu lieu dans votre centre il y a quelques temps qu'on a raté, qui vous a poussé à venir vouloir nous entretenir de Marthe Robin ici elle-même à la radio?
Eh ben écoutez, d'abord c'est vrai qu'au départ c'était dans le but de faire un petit peu connaître notre conférence et puis finalement ça n'était pas possible parce qu'on s'y est pris un peu tard et je m'en excuse auprès de vous d'ailleurs, je voulais le faire. Et en fait nous avons décidé de faire cette émission un peu en différé et c'est vrai que Marthe Robin m'importe non pas pour en faire la publicité, non pas parce que je connais parfaitement historiquement son histoire, mais parce qu'elle a marqué profondément la mienne d'histoire puisque très tôt je me souviens mais je sais que moi je suis dans 47 donc en 54 déjà on allait à Châteauneuf-de-Galaure, on allait aussi dans des centres qu'elle avait, donc les foyers de charité qu'elle avait créés. Donc voilà, moi je suis un peu imprégné, comme un enfant peut être imprégné de Marthe Robin, à travers en particulier un prêcheur qui était très important chez elle, qui s'appelle le Père Monnier. Donc voilà, c'est pour ça que c'est quelqu'un qui importe dans ma propre vie et qui a beaucoup pesé sur ma propre vie et je l'ai découvert petit à petit.
Les saints de nos jours, c'est quelque chose qu'on a du mal à appréhender, nous autres profanes et béotiens. Je vous demande pas de nous expliquer comment ça fonctionne, quelle est la fonction d'un saint ou d'une haute figure spirituelle, mais est-ce que vous pourriez, avec vos connaissances, vous m'avez dit vous n'êtes pas un spécialiste non plus, vous n'êtes pas un exégète de Marthe Robin, mais nous parler un petit peu de son parcours quand même.
Bah écoutez, moi, je ne veux pas dire que je vais parler de son parcours, je vais parler de son parcours vu par moi, et même pas de tout son parcours, mais de ce qui me paraît central. C'est-à-dire qu'elle a un amour, comme on peut avoir des amours humains, elle a un amour spirituel envers Jésus. Et cet amour fait que tout son esprit, tout son être se tourne vers Jésus. Et cet amour fait qu'elle comprend peut-être bien mieux que moi Jésus, et avec Jésus, il y a Marie. Elle rentre dans un contact d'intimité qui, moi, me touche beaucoup avec Marie. Donc je crois que c'est tout simplement une histoire d'amour, un amour qui fait que son esprit est préoccupé, tout son être est préoccupé, et cette préoccupation fait que c'est comme si, se rapprochant ainsi du Christ, elle commence à en sentir la nature profonde, et peut-être, mais c'est pour ça, c'est ce qu'on verra peut-être tout à l'heure, même la vivre, cette nature profonde, tellement elle est proche. Regardez, c'est assez simple, je crois. Quand quelqu'un nous est proche à ce point, qu'on aime quelqu'un, c'est comme si on le sentait, c'est comme si, quand il éprouve quelque chose, on éprouvait avec lui. Et c'est cette intimité, je crois, qui se fait entre Marthe Robin et le Christ, à travers même, à travers l'invisible. Voilà, mais je prétends rien décrire, hein, on est bien d'accord, je dis mon sentiment.
Donc ça se manifestait comment alors cet amour pour Jésus? Parce que je ne veux pas déflorer la suite de votre conversation, mais en tout cas, non seulement elle était proche de Jésus, mais elle avait une capacité de réalisation assez exceptionnelle. Hein. Vous avez parlé brièvement des foyers de la charité,
oui,
mais ça, elle était forte quand même.
Ça c'est quand même assez incroyable cette histoire, parce que quand même, une femme toute rabougrie, une petite femme, une petite paysanne, qui a fait des études très très simples, qui ne connaît pas grand chose, qui a quand même eu ensuite un certain nombre de lectures spirituelles, sacrées, chrétienne, mais c'est vrai qu'elle c'est pas une femme qui brille par son intelligence, etc. Et quand on voit depuis son lit paralysée pratiquement tout ce qu'elle a créé, je crois que la personne qui est venue faire la conférence chez nous, la Paul Guillet, nous disait qu'il y avait 80 communautés dans le monde, donc c'est quand même pas rien depuis un petit bout de bonne femme paralysée dans son lit. Donc on est obligé de se dire il y a quelque chose quand même qui agit, quoi. Et pour la petite histoire, j'aime bien quand justement cette personne qui est venue chez nous parler nous disait « Mais vous savez, quand Marthe nous dit il faut faire une école de jeunes filles à Châteauneuf-de-Galaure, qui est un pays qui mange du curé toute la journée, où personne ne croit en rien, enfin bon, tout le monde dit « Marthe, elle a perdu la tête, quoi hein. ». Et donc, ils essayent de lui dire gentiment « Non mais Marthe, faut arrêter, là, c'est pas possible, ça ne marche pas, mais non, il faut comprendre ». Et Marthe, à bout d'arguments, leur dit « Mais c'est la Vierge qui le demande ». Et alors là... tout le monde s'arrête, il dit alors là on n'a pas d'argument contre, on n'est toujours pas d'accord. Je pense que dedans ils étaient toujours pas d'accord, mais là ils n'ont pas su quoi dire et donc ils l'ont fait et l'école a démarré d'ailleurs.
C'est un gros centre, en fait, à Châteauneuf-de-la-Galance.
Ah oui, oui, c'est incroyable, moi. Enfin, moi, disons que je vous dis, j'y allais quand j'étais tout petit, et puis j'y suis retourné, il y a pas si longtemps, j'y suis retourné il y a 3-4 ans, parce que tout d'un coup, j'ai repris contact avec toute cette partie de ma vie. Et j'ai été scotché de voir l'incroyable grandeur des lieux, mais c'est incroyable ce qu'ils ont pu construire, ce qu'ils peuvent, c'est magnifique. Et puis c'est très beau comme centre, c'est très très beau. Oui, oui, enfin ceux qui, je m'excuse, là, c'est pas du prosélytisme, mais c'est vrai que moi j'étais tellement, puis vous connaissez en plus, vous m'avez dit que vous étiez allé, il faut aller voir quoi, il faut aller voir, c'est beau.
Effectivement, l'année dernière j'y étais. Bon, je n'ai pas peur de ce genre d'endroit où l'irrationnel affleure.
Bien sûr.
Hein, puisque en Inde, j'ai fréquenté un certain nombre de gourous dans lesquels il est totalement inutile d'essayer de comprendre ce qui se passe. Ça se passe par-delà le mental, avec cette fibre qu'on appelle l'amour ou oui. Quelque chose qui reste par-delà même la disparition de Marthe, puisqu'elle est morte dans les années, je ne sais
pas. 81, oui.
Et vous n'avez pas trop insisté, vous avez dit brièvement, mais effectivement, elle avait une santé très fragile.
Oui, elle avait une santé très fragile. Elle avait été empoisonnée par un puits qui était entre la maison de sa famille et la maison d'un voisin ou de la famille, je crois d'ailleurs, d'un oncle, quelque chose comme ça. Et donc, toute la famille avait eu la typhoïde et elle en avait eu des séquelles importantes. Elle avait dans sa famille un certain nombre de personnes qui en sont mortes de cette typhoïde. Donc oui, c'est quelque chose qui avait beaucoup marqué. Elle avait une santé extrêmement fragile. Elle pensait qu'elle allait mourir très jeune d'ailleurs, mais finalement non.
Et elle a passé donc une bonne partie de sa vie dans son lit.
Oui, puisque, écoutez, je ne suis pas sûr des dates, hein, donc je crois qu'elle est née dans les années, 4, donc en 1904, elle est morte en 81, faites le calcul, et elle était déjà très 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 malade, très jeune, puisque je crois que ça a commencé vers 12 ans, mais là aussi, ne me faites pas confiance pour les dates et pour les âges, hein, c'est approximatif, et que donc elle a été très longtemps dans ce lit, quoi. Ouais.
Et de son lit, elle a non seulement su émouvoir un certain nombre de gens qui se sont aperçus de la qualité de sa relation avec le Christ. Comme
voilà, c'est ça. Alors, moi, c'est comme ça, finalement, que je ne peux pas dire que je la rencontre directement, mais que mes parents vont là-bas faire des retraites et que moi, en petit enfant, je suis obligé de suivre et que je me retrouve dans cette ambiance. Et je perçois les choses comme un petit enfant. C'est-à-dire que moi, c'est des espèces d'antennes qui perçoivent l'ambiance, qui perçoivent les êtres, mais qui ne retiennent pas les choses... Et c'est vrai que j'avais un souvenir, par contre, si, j'avais un souvenir de me trouver devant sa maison et de vouloir à tout prix aller la voir. Et comme je suis petit, mes parents refusent. Et pour moi, c'est un drame parce que, en même temps, je sens en tant qu'enfant à quel point elle est importante, cet être, comme ça, spontanément, hein, sans réflexion. Et c'est quelque chose qui m'avait marqué profondément, ce refus de mes parents ou des adultes qui étaient là, que je comprends très bien maintenant, hein, mais qui pour moi était. C'était comme s'il fallait à tout prix que je la voie, que c'était le plus essentiel de ma vie, quoi.
C'est marrant que vous justifiez cet avis de vos parents. Ça me rappelle une petite histoire juste à la mort du Bouddha. Quand il est en train de passer son dernier souffle et il y a un type qui veut le voir, qui dit oui, je veux voir le Bouddha, je veux voir le Bouddha pour des raisons peut-être indignes, peut-être qu'il voulait demander la réalisation absolument instantanément. Et tout son entourage lui dit mais non, il est en train de mourir, respecte-le, ou alors assieds-toi et prie pour lui, etc. Et Bouddha qui entend que ses suivants le protègent de quelqu'un qui veut absolument boire à la source, Bouddha dit qu'il vienne me voir. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je trouve qu'on n'aurait jamais dû vous empêcher de voir Marthe Robin.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous au fond, mais je comprends mes parents en même temps, parce que les parents, on fait ce qu'on peut, on se débrouille. Hein, donc voilà. Mais c'est vrai que dans mon cœur d'enfant, c'est resté un manque profond qui m'a ramené d'ailleurs là-haut. C'est vrai.
Et alors, depuis, vous êtes revenu à Châteauneuf-de-Galaure quand même ?
Oui, j'y suis retourné. Alors, dans mon parcours à moi, si vous voulez, je crois que j'ai été tellement marqué, sans que je m'en rende compte, parce que ça me paraissait naturel, par cet enseignement, à travers surtout le père Monnier, mes parents, etc., que même quand je quitte tout ça, l'adolescence, etc., et que je vais m'occuper plus des filles que de la vie spirituelle, ça reste un peu ancré en moi quand même, cette chose, qui a un manque profond. Donc je vis une vie extérieure, faite de fêtes, de bringues, voilà, tout ça. Et en même temps, il y a quelque chose qui reste ancré et quelque chose qui cherche. Et donc après, je me suis mis un peu à chercher un peu partout, à faire plein de choses, avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins de choses plus ou moins élevées. Voilà. Et puis après, j'ai fait un parcours qui est toujours pour moi complètement lié à la chrétienté, qui est issu des dialogues avec l'ange, avec Gita Malhaj, Bernard Manteau, etc. Donc je suis ça de très très près. Ça me paraît une suite à ma vie spirituelle extrêmement intense. Donc voilà un peu le parcours que j'ai eu, et imprégné par ça au départ, quoi, si vous voulez.
Alors, je reprends ma question. Est-ce que vous êtes revenu à Châteauneuf-de-Galaure depuis? Alors.
Je savais que je n'avais pas répondu, mais je ne savais pas où c'était. Merci. Alors, oui, je suis retourné, donc, parce que tout à fait le hasard, enfin, si on peut appeler ça le hasard. Vous savez qu'il y a des gens qui disent le hasard, c'est quand Dieu se fait discret. Donc, le hasard des choses fait que quelqu'un me donne un livre sur Marthe Robin et je lis ce livre et j'ai l'impression de me retrouver chez moi, quoi. Et comme j'habite Valence et que je passe très souvent pour aller à Lyon, Châteauneuf-de-Galore, et donc je sais à quel endroit ça part, quoi, Châteauneuf-de-Galore, où est la route. Et donc je me dis, il faut que j'y aille quand même. Là, j'y vais et c'est un choc, quoi. C'est un choc.
Justement, c'était là, en fait la vraie question. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous sentez qu'elle est encore là? Parce qu'il paraîtrait que, justement, l'imprégnation d'une grande âme, d'un espace, ne passe pas.
Alors, moi, j'y vais pourquoi? À cause de ce souvenir dont je vous ai parlé. Je me revois petit, je revois la ferme, je revois où je suis et je veux voir si j'ai inventé tout ça ou pas. Et donc, le centre lui-même en bas, à Châteauneuf, j'y vais, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est monter et trouver l'endroit où je jouais dans le sable et où on m'a dit non, tu n'iras pas dans la chambre de Marthe Robin. Et je le retrouve. Sauf que, bien sûr, comme j'étais tout petit, la maison est beaucoup plus petite que ce que je pensais, que tout est beaucoup plus petit, mais c'est vraiment là. Donc, c'est ça. Alors après, je rentre dans la chambre, bien sûr. Mais je vais être très franc. La première fois, il n'y a rien de spécial, non, vraiment. J'étais content d'être là, il y avait une joie, mais rien de spécial. Je réponds toujours comment je vis les choses, je prétends pas donner des leçons à personne là-dessus. Mais j'y suis allé de nombreuses fois maintenant, et c'est jamais la même expérience. C'est-à-dire que, en fonction de l'état intérieur dans lequel j'arrive, je vis des choses différentes dans cette chambre. Et en particulier, la dernière fois, j'ai vécu quelque chose, vous voyez, de très intime, parce que je pensais à Marthe Robin, et puis je regardais la chambre dans laquelle elle était, je regardais le tableau de la Vierge, je regardais le Christ, je regardais tout ça. Et j'ai tout d'un coup l'impression de rentrer dans ses préoccupations, dans qu'est-ce qui habitait son âme. J'ai l'impression un tout petit peu de m'asseoir à côté d'elle et de regarder par ses yeux, mais sans aucune prétention, entendez-le bien. Mais voilà. Donc je pense que l'expérience, c'est pas un truc comme ça, c'est pas un gadget, c'est comment j'arrive et quel est le rendez-vous particulier de mon être ce jour-là. Quelquefois, il n'y a pas de rendez-vous du tout, c'est on regarde et puis on repart, pour moi en tout cas. Puis quelquefois, il y a des choses un peu plus intimes qui se passent.
Tout à l'heure, vous avez dit quand même que l'intimité qu'avait développée Marthe Robin avec le Christ avait été très puissante jusqu'à, alors ça je le sais par ailleurs, elle a vécu certains épisodes de la Passion du Christ. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu de tout cela?
Alors, ça c'est quelque chose qui en est fait très mystérieux et je n'ai aucunement la prétention de l'expliquer. C'est bien trop élevé pour moi, qui suis un tout petit bonhomme par rapport à tout ça. Donc ça c'est l'introduction qu'il faut prendre. Après, en effet, elle revivait la Passion et je crois qu'elle l'a vécu. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont vécu, beaucoup de saints et même qui ont vécu ça. Donc ça c'est pas exceptionnel en soi. Mais elle l'a vécu avec une régularité, une longueur qui est je crois même celle qu'il a vécu le plus. Mais ce qu'il faut bien savoir, parce que ça j'en suis absolument certain, c'est qu'elle ne voulait surtout pas que ça se sache, surtout pas qu'on le mette en avant, et que ça n'avait pour elle aucune importance. Et d'ailleurs, c'est un signe extrêmement important, c'est que tous les autres saints qui ont vécu ce genre de choses ont toujours voulu le cacher. Ils ont toujours même prié pour que ça disparaisse, et certains l'ont obtenu d'ailleurs. Mais là, ça se faisait, c'était pas aussi simple que ça. Donc Marthe, elle le cachait, elle voulait pas qu'on en parle, elle disait que c'était sans importance. Donc voilà. Donc elle a jamais mis ça en avant. C'est nous qui reprenons ça en essayant d'y mettre quelque chose, en essayant de comprendre, ce qui est juste. On a quand même raison d'essayer de comprendre quand même. Mais voilà, pour elle, c'est pas très important. Alors moi, la seule chose que ma contemplation me dit comme piste pour essayer de comprendre, c'est je me dis, elle aimait tellement le Christ, elle aimait tellement Jésus, elle aimait tellement Marie. Que je me demande si petit à petit, cette identification, ce rapprochement, cet amour, comme si vous voulez, quand on aime vraiment quelqu'un et qu'il souffre, c'est comme si sa souffrance était un peu la nôtre. C'est comme si elle aimait tellement, à des niveaux tellement supérieurs à tout l'amour que moi je peux avoir, tellement à des niveaux au-dessus de ce que je peux moi atteindre, que cet amour a peut-être produit une identification et une communauté dans une souffrance qui dépasse le temps, qui n'est pas inscrite il y a 2000 ans, qui est inscrite dans l'histoire de l'humanité. Mais c'est tout ce que je peux dire. Mais moi, en tout cas, si vous me demandez si je comprends la douleur, si je comprends la martyrologie, je vous réponds non, non. J'essaie de comprendre parce que si ça existe, ben j'essaie de comprendre. Mais non, je ne peux pas dire que je vais vous expliquer ça et que non, non, pas du tout.
C'est très bien parce que en fait, vous m'avez un petit peu coupé l'herbe sous le pied. Moi, je voulais vous parler de martyrologie. Oh, pas de pardon, il n'y a aucun souci. Sur ce côté un petit peu incompréhensible. Il y a beaucoup de choses incompréhensibles de nos jours pour les profanes et pour cette société très matérialiste qui n'a plus les mêmes référents que la chrétienté. C'est en train de s'éloigner. Hein. L'adéquation du christianisme avec la société actuelle est de plus en plus tenue. Et donc, on a du mal à comprendre pourquoi, pour la religion catholique, c'est important la Passion du Christ, le fait qu'il ait été crucifié. Et donc, on a du mal à comprendre que quelqu'un, dans son lit, pendant très longtemps, ait pu revivre ça avec les stigmates, c'est-à-dire qu'elle perdait du sang.
On ne perdait pas beaucoup de sang, je sais pas, mais je pense que c'était pas grand-chose. Non, mais c'était un signe.
Mais en tout cas, c'est pas très important cela, mais en tout cas, à quoi ça correspond? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert?
Alors, d'abord, je veux dire que par rapport au fait que vous dites qu'en effet, il y a une distance qui s'instaure entre peut-être la religion catholique et le commun des mortels, c'est possible. Mais moi, j'ai le sentiment que le monde est un petit peu... C'est comme si les gens étaient un peu en parallèle, côte à côte, parce que quand on s'intéresse à ça, on rencontre beaucoup de gens qui sont passionnés, en fait, qui veulent dire « Ah ben oui, moi aussi, ça m'intéresse. » Donc, je suis pas sûr qu'il y ait un désintérêt. Extérieurement, oui, je le comprends. Mais je crois qu'on rencontre beaucoup de gens qui, finalement, se passionnent pour ces choses-là, et j'en ai plein en tête. Après, par rapport à la martyrologie... Moi, et là aussi, c'est que mon avis personnel. Je ne crois pas que les martyrs aient envie d'être des martyrs. Hein. Ça, c'est à mon avis, c'est pas du tout le cas. Hein. Ils ont aucune envie de ça. Hein. C'est pas tentant, c'est pas attirant. Je pense pas que le Christ, il s'est monté sur la croix tout seul comme ça. On lui aurait dit, faut y aller, il serait allé. C'est autre chose qui s'est passé. Alors après, moi, j'essaie d'ouvrir une piste à partir d'une expérience qui m'est plus proche. Et ce qui m'est plus proche, c'est que quand j'ai des convictions et que autour de moi on les a pas, j'essaie de me dire bon, allez, pour être bien avec les copains, je vais rien dire. Mais si vraiment c'est des choses importantes, et par exemple on dit du mal devant moi de quelqu'un que j'aime, que j'estime, alors soit pour être bien avec ces gens qui disent du mal, je dis du mal avec eux ou je dis rien, soit je dis écoutez, j'essaie de trouver une phrase qui dit non, ils ont le droit de penser comme ça, et moi je pense autrement. Alors si vous voulez, plus on monte dans des choses qui vont être conflictuelles entre ces deux espèces, celle qui dit du mal et celle qui aime, on va dire, il y a un moment où il y a un conflit sur l'essentiel, jusqu'où j'accepte de rien dire et à quel moment je dis maintenant, moi c'est ma route, c'est ça, c'est comme ça, je vous veux pas de mal, je veux pas vous convaincre, je veux rien, mais moi c'est comme ça. Et si parce qu'on dit c'est comme ça, les autres nous trucident ou le trucide, écoutez, ça s'appelle un martyr, mais il l'a pas franchement voulu. Voilà un petit peu moi comment j'essaie de comprendre la martyrologie.
Oui. Et d'ailleurs, ce n'est pas le plus important non. Quand on pense à Marthe Robin, c'est effectivement ce charisme, hein, cette capacité d'emporter l'adhésion des gens et d'émouvoir et de renvoyer à l'essentiel quelque chose qui a lieu au cœur.
Enfin. Oui. Je vais me permettre de vous donner un exemple très précis de ce que ça, parce que je disais tout à l'heure en introduction, ça agit sur ma vie. Moi, il se trouve que dans ma vie, donc mes parents ont eu au total 8 enfants et mes parents ont perdu le deuxième, un garçon, dans des conditions très difficile, très rapide, d'une maladie infectieuse. Et ma mère a été très profondément affectée au point de faire une dépression très, très profonde. Et cette dépression profonde a produit qu'elle ne pouvait plus s'occuper de nous. Même si nous, moi, je suis arrivé un petit peu après toute cette histoire, on était des enfants un peu à la dérive et je pense psychiquement en train de sombrer parce qu'un enfant qui n'a pas l'amour de sa mère ou quelqu'un qui la remplace, il sombre. Mais en fait, moi, c'est une autre femme qui s'est occupée de nous, de tous. C'est-à-dire qu'on avait en fait deux femmes à la maison, ma mère et cette autre femme. Et vous savez, pour un enfant, ce qui est autour de lui, c'est la réalité, c'est normal, c'est comme ça. Donc moi, j'ai toujours pensé que c'était normal, que c'était la vie habituelle. On avait un père, on avait une maman qui était pas très bien, mais qui était notre vraie maman physique, biologique, qu'on aimait immensément. Et puis une autre qui s'occupait de nous et qui nous aimait aussi immensément. Donc moi, j'ai pas de problème entre ces deux amours. Mais après ça, petit à petit dans ma vie, dans la construction de mon être, je me suis rendu compte qu'à quel point, si cette femme n'avait pas été là, je serais peut-être au moins mort psychiquement. J'en suis intimement persuadé. Et j'ai appris en fait que cette femme, qui était une amie de ma mère, voyant le désarroi de ma mère, voyant le désarroi de la famille, est allée plusieurs fois voir Marthe Robin en lui disant « Moi, j'ai envie de m'occuper de ses enfants. » Mais c'était faire la croix sur sa vie sexuelle en grande partie, je sais pas ce qu'elle a vécu, faire la croix sur sa vie d'avoir des enfants à elle. Donc c'était, il fallait pas que ce soit une espèce de dévouement avec une rancœur après. Et donc Marthe Robin l'a conduite et à un moment lui a dit maintenant faut y aller. Et elle s'est occupée de nous et on était à l'époque 4, oui, 4, 5, puis après 6. Et donc elle s'est occupée de nous du côté maternel, du côté chaleur, du côté bisous, du côté de ce que ma mère à l'époque ne pouvait pas donner. Et que après elle s'est redressée, elle a pu, mais c'était un peu tard. Moi j'étais adolescent, j'étais parti.
Est-ce que vous pensez que Marthe Robin actuellement, bien qu'elle ne soit plus là, agit dans ce monde?
Mais écoutez, je crois que ça c'est toujours le problème de l'effet de l'invisible sur le visible. Mais moi j'en suis persuadé, mais tout agit. Regardez, je vais le mettre à un niveau très simple. Si je pense à mon père et à quel point ce qu'il a fondé dans mon être est important, alors mon père existe. Si je pense à ma mère et je pense au magnifique parcours qu'elle a eu et le puissant respect que j'ai pour elle, parce qu'elle s'est redressée de ce malheur toute seule par sa propre force, en allant faire un travail psychique extrêmement compliqué à l'âge qu'elle avait, j'ai une profonde admiration. Alors elle existe. Donc tout ce qui existe en nous existe dedans, existe dehors. Donc après, vous pouvez tout mettre, Marie, Marthe, Marthe en bas, Marie, Jésus, Dieu, parce qu'on fait ce qu'on veut. Mais à partir du moment où on y pense, à partir du moment où ça existe, ou à partir du moment où notre amour nous porte vers ça, cette chose vient vers nous.
Est-ce que vous conseilleriez à n'importe quelle personne présente autour de vous de faire un petit saut à Châteauneuf-de-la-Galaure?
uniquement s'ils en ont envie, si ça les attire. Autrement, surtout n'y allez pas. Et si vous avez d'autres amours, allez vers vos amours. Je crois qu'on peut pas. Ce qui compte, c'est que chacun trouve en lui-même ce qui lui est essentiel et qu'il aille vers cet essentiel-là. Le reste n'a aucune importance. Donc, je conseille à ceux qui ont envie d'y aller et ceux qui n'ont pas envie de rechercher où est-ce qu'ils ont envie d'aller, de qui ils ont envie de se rapprocher, qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qui est essentiel pour eux. Quel est l'être sur terre qui leur paraît admirable? Quel est l'être, même qui est déjà mort, qui leur paraît admirable? Quel est l'être dans la vie intérieure qui leur paraît admirable? Et surtout qu'ils ne le perdent pas parce que leur cœur va les amener là. Et là, ils vont s'épanouir.
Je suis quoi? Que dire de plus?
Écoutez, oui, c'est vrai que vous avez lancé et que je suis un peu parti.
Non, non, au contraire.
Mais oui, je vous remercie vraiment parce que j'aime beaucoup la façon dont vous conduisez les choses. Et vous voyez, vous avez pu obtenir de moi plein de choses que personne ne sait.
Et en plus, ça va être radiophonisé. Hein. Je vais même m'abstenir de couper tout ce passage. Alors que j'ai
pu. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je vous remercie en tout cas beaucoup, beaucoup de votre sincérité.
Bien que vous ne l'ayez point rencontré, mais vous avez baigné dans cette atmosphère, vous m'avez parlé d'un prédicateur, etc. Qu'est-ce qu'il en ressortait de Marthe Robin, à part le fait qu'elle soit une sainte? C'était quelqu'un de transfiguré, de simple, de naïf, de rigolo? Comment vous l'aperceviez-vous d'après les gens qui vous en parlaient?
Alors, c'est comment je l'aperçois et puis aussi comment, à travers tout ce que j'ai lu, je l'ai retrouvé. Parce que l'enfant, il perçoit les choses d'une façon instinctive, avec pas forcément les mots. Mais ce que je vais vous dire, donc, c'est issu en même temps de ce que j'ai perçu et puis en même temps de ce que j'ai compris et retrouvé comme en adéquation avec ce que je percevais enfant. Je crois que ce qui est très intéressant, c'est qu'en même temps, il y a la sainte et en même temps, il y a une petite fille au départ. Il y a une petite fille qui est immensément amoureuse, mais qui est une petite fille un peu perdue. Et tout le père fort au début et puis ensuite le père Finé vont lui amener de quoi nourrir cette foi, de quoi nourrir cet amour envers le Christ. Mais c'est quand même une petite fille. Et cette petite fille, c'est une petite joyeuse, Marthe, d'après tout ce que j'ai pu comprendre, lire et sentir. Elle est joyeuse, elle est gaie, elle s'amuse, elle rit, elle est pleine de joie et de vie. Et en même temps, quelquefois, elle est perdue. C'est une petite qui a ses inquiétudes, une petite au début, puis après une plus grande. Mais j'aime bien l'anecdote que raconte Paul Guillet, qui l'a connue, je crois, en 56, et puis ensuite. Donc l'événement arrive bien plus tard. Il y a des journalistes qui étaient dans la région et qui voulaient interviewer Marthe. Et Marthe avait horriblement peur des journalistes. Parce que c'était une petite fille qui ne sentait pas à la hauteur. Et elle avait surtout une peur extrêmement importante, c'est qu'on la considère comme un être extraordinaire. Vous voyez, elle n'aimait pas qu'on parle des stigmates. Elle n'aimait pas du fait qu'on dise qu'elle ne mangeait pas, qu'elle ne buvait pas et qu'on ait fait tant de foin là-dessus. Elle s'en fichait éperdument, ça n'avait aucune importance. C'était un effet secondaire sans importance pour elle, si je peux me permettre, je pense, de dire ça. À côté, c'est une petite fille, c'est une femme joyeuse, c'est une femme gaie, c'est une femme qui a de l'humour, qui a beaucoup d'humour, qui reçoit les gens avec une légèreté, avec de la plaisanterie. Mais en même temps, il y a en même temps ça et en même temps cette espèce de profondeur, cette profondeur. Et cet humour et surtout, une très profonde humilité, humilité. Là aussi, c'est quelque chose que j'ai lu et que j'ai trouvé très amusant et très émouvant. C'est le père Finet gardait, c'était un peu le cerbère de la chambre de Marthe. On rentrait pas comme ça. Donc il fallait montrer patte blanche. Et donc il y a pas mal de gens qui ont essayé de passer un peu à travers. Et il y avait en effet trois jeunes gens comme ça qui étaient venus pour se ficher de la gueule de Marthe Robin. Donc ils voulaient se moquer d'elle. Et ils rentrent dans la chambre, ils sont arrivés à rentrer dans la chambre. Et elle le sent. Et elle leur dit, vous savez, vous avez raison. Hein. Je suis tellement ridicule là sur mon lit, sur mon truc. Vous avez raison de vous moquer de moi. Et donc, ils ont été tellement touchés qu'elle dit ça en se mettant de leur côté et en même temps avec une certaine. Elle avait un certain côté pitoyable dans ce lit, c'est vrai. Et en reconnaissant ça, qu'une des femmes qui était là s'est fait religieuse en sortant ou quelques mois après, tellement elle était touchée. Donc, ça, c'est le côté de Marthe très humble, vous voyez, qui ne cherche pas à être devant de la scène, qui ne cherche pas à être connue. Je ne pense pas qu'elle aimerait être canonisée. Là, je parle, c'est moi qui parle, hein, mais je ne crois pas que ça lui plaise beaucoup. Oui. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ce côté. Oui, oui, ça a été relaté. Mais là, je crois que ce qui est intéressant, c'est peut-être d'aller acheter un livre sur Marthe Robin et de lire ça. Il y en a plein qui sont intéressants. Moi, j'en ai lu beaucoup maintenant. Il y en a qui sont vraiment. Il y en a qu'on trouve plus, hélas, qui s'appelle Le Voyage Immobile, qui pour moi est un des très très beaux. Mais il y en a d'autres qui sont très très intéressants et qui parlent sous cette forme-là d'elle. Voilà. Oui.
En tant qu'être humain avant d'être une figure spirituelle.
Il y a les deux côtés toujours. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire elle est sainte, elle est parfaite, c'est magnifique, tout est bien, tout est. Non, il y a des trous dans tout ça. Il y a l'être humain. Il y a l'être humain avec ses misères, avec ses difficultés, avec ce qu'il est, avec ses peurs, avec ses inquiétudes. bien sûr. Mais c'est cet amour qu'elle a pour le Christ qui transcende tout. Qui transcende tout dans le sens que, pas comme un terme ésotérique ou je sais pas, ce qui transcende dans le sens que ça prend sa vie et ça porte sa vie. Et ça fait que sa vie est en intimité de plus en plus grande avec le Christ, avec Marie. C'est un mystère, l'amour qu'elle avait pour Marie, c'était sa maman, c'était incroyable comme elle en parle. Moi, si je peux me permettre, ce qui me frappe beaucoup, parce que là, il y a un livre aussi qui est son agenda, qu'elle a écrit ou bien que des gens ont écrit sous sa dictée, au début d'ailleurs de son expérience, hein, je crois que ça va jusqu'en 1930, de 26 à 30, je ne sais pas, un truc comme ça. Et où, quand elle parle de la Vierge Marie ou de Jésus, vous avez une suite de qualificatifs pendant des pages, et donc on pourrait en avoir ras-le-bol au bout d'un certain temps d'écriture, quoi. Quand on vous dit 10 fois la même chose, vous dites, bon, c'est bon, passons à autre chose. Mais moi, en tout cas, j'ai jamais été lassé. Je lis les pages et je relis les pages. Parce qu'on sent tellement, non pas la répétition des mots, mais l'amour qu'elle porte, qu'on se dit, mais comment c'est possible, quoi. Et quand elle parle de la Vierge Marie, c'est pareil. Il y a des mots qui se succèdent et qui sont finalement, au fil des pages, quelquefois un peu répétitifs, dans un autre ordre. Mais enfin, c'est incroyable cet amour. C'est ça qui est scotchant. C'est quel amour il faut pour parler comme ça d'un être. C'est une déclaration d'amour incroyable. Incroyable.
Exemplaire. Enfin, je veux dire, dans la capacité de susciter...
Pour moi, exemplaire, mais là aussi, je crois qu'il faut laisser tous. Chacun doit suivre son exemple, quel qu'il soit, quel que soit le pays, quel que soit. Ce qui compte, c'est pas le mien, c'est pas celui-là.
J'entends bien, mais il y a tellement de misère et de perdition partout que moi, je lisais récemment un article sur le fait que ce monde désacralisé n'offrait plus de pardon. Il n'y a plus de pardon de nos jours. Le modèle actuel est impitoyable. On nous poursuit jusque dans notre sommeil. Il faut être compétitif. Il faut y arriver. Je ne sais pas si vous avez vu les dernières études, comme quoi, de nos jours, si les pauvres sont pauvres, c'est bien de leur faute. Donc, quand je parle d'exemplarité, c'est offrir à certaines personnes perdues la possibilité de trouver comme des phares dans la nuit. Alors, si Marthe Robin peut en être une,
bien sûr. Alors, c'est un problème central que vous soulevez. Le fait qu'il n'y ait plus de pardon envers sa propre histoire, envers ses propres parents. Moi, même si mes parents, dans mon enfance, il y a un moment où j'ai dit, à l'adolescence, j'ai dit, moi, je veux bien tout revivre. Je disais ça il n'y a pas longtemps, je veux bien tout revivre, mais pas jusqu'à l'adolescence. Je ne veux plus ça. Donc, c'était un peu contre mes parents. Je peux dire même comme ça. Mais tout le travail intérieur spirituel que j'ai fait m'a tellement mis en paix, m'a tellement fait comprendre à quel point ils avaient fait tout ce qu'ils ont pu, que j'ai un réel amour pour mes parents. Et quand je pense à eux, je pense toujours du côté de l'incroyable effort qu'ils ont fait et pas des maladresses qu'ils ont fait qui sont pourtant énormes. Le pardon est quelque chose de central. Et je crois que justement, ce fait que le pardon se perde va être à l'origine de très grandes douleurs. De très très grandes douleurs. Le fait simplement de dire « c'est pas moi qui ai tort, c'est l'autre, c'est toujours l'autre, c'est toujours l'autre » est en train de produire des choses incroyables. Mais je vais vous en donner qu'un exemple, tout simple. Je suis gynécologue obstétricien, ça veut dire que si je fais quelque chose qui produit un problème pour un enfant, pour une mère, ça se termine tout de suite devant les tribunaux. Ce qui veut dire que mon assurance professionnelle est passée, on va dire, de 1000 euros quand j'ai commencé à travailler à 25 000 euros. Donc ça veut dire, qui c'est qui paye les 25 000 euros? Sur les consultations, je suis obligé de monter mes tarifs, Donc les gens payent, alors ils râlent parce qu'ils payent, moi je râle parce que je paye une assurance, l'assureur râle parce qu'il faut qu'il rembourse, et l'État râle parce que quand ça lui retombe sur le taux. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que personne n'est en responsable, il n'y a pas un gentil, un méchant là-dedans. Tout le monde défend sa partie, mais il y a l'irresponsabilité, la mienne, et celle de toutes les personnes qui tournent autour de ça. Et si vous voulez, le pardon est là-dessous, puisqu'il faut comprendre que ce que nous ne sommes pas des êtres parfaits. Nous devons essayer d'être le plus honnête possible et faire au mieux. Mais moi, je peux pas faire des miracles. Il y a des choses que je peux pas faire. Il y a des problèmes en obstétrique qui sont tellement brutaux, tellement violents, que je suis désolé, mais je suis démuni, je suis pas Dieu, moi.
Là où je voulais en venir, c'est que j'ai passé un certain temps en Inde et auprès d'un certain nombre d'écoles spirituelles. Une de celles qui m'a le plus marqué, qui pourrait par certains côtés étrangement se rapprocher du christianisme, c'est l'hindouisme Advaita, avec plus cette notion de filiation, de maître à disciple. Ils ont transmis un enseignement qui est très humble, et en particulier on ne peut pas y arriver seul. On ne peut pas y arriver seul et on a besoin de quelqu'un dans la nuit pour déjouer les pièges de notre propre mental. Et c'est pour ça que je vous parlais de Marthe Robin comme de quelqu'un à aller voir. C'est vrai que je suis revenu à plusieurs reprises.
Oui.
On dit que chacun aille vers ses propres références, tant mieux. Mais je pense aussi à toutes ces personnes qui ne savent pas très bien qu'est-ce qu'il y a comme vraie valeur de nos toujours et non pas les valeurs consuméristes, ne serait-ce pas quand même quelqu'une qui pourrait inspirer certaines personnes qui pourraient se poser des questions ?
Totalement. Alors vraiment là, vous soulevez encore une fois un problème absolument central, celui de l'affiliation. Et à travers, oui c'est vrai qu'on on l'a pas, je l'ai pas abordé cette question. C'est je crois en effet impossible, moi je le crois impossible, hein, à part 10 êtres sur Terre dont je ne fais pas partie, de ne pas être guidé, mais aussi par quelqu'un dans le visible. C'est pour ça que je dis, moi, il a fallu que je cherche, mais j'ai eu ensuite, à travers l'enseignement Bernard Manteau, issu de Gita Malas, issu du dialogue avec l'ange, j'ai eu quelqu'un qui m'a guidé, qui m'a permis de passer des pièges, etc. Et je crois qu'on a besoin de quelqu'un sur Terre, quel que soit, qui nous guide, qui nous accompagne dans ce chemin spirituel. Mais je pense qu'il faut aussi quelqu'un dans le visible. Marthe Robin n'est plus dans le visible, et donc il faut aussi quelqu'un dans le visible. Donc si c'est Marthe Robin, eh ben, il va falloir trouver à l'intérieur de ça quelqu'un qui va aussi nous conduire dans le visible. Si c'est en nous un autre amour, eh ben il faut aussi trouver quelqu'un dans le visible. Et ça, je partage complètement le point de vue que vous avez présenté tout à l'heure là-dessus.
Donc, bon, j'en viens à l'hindouisme Advaita, vous voir Jésus quand même, il a réussi à inspirer des gens 2000 ans après.
Fort c'est, que c'est,
hein, lui, il a réussi son coup. Hein. Mais enfin, en tout cas...
Oui, mais là aussi, si on veut, il faut trouver la personne qui va vous conduire. Moi, vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure, moi c'est le Père Monnier qui m'a parce que j'étais enfant, mais il nous parlait comme à des enfants, mais il nous parlait. Moi, je me suis promené grâce aux images que produisait le Père Monnier en nous, avec Saint Jean-Baptiste en train de baptiser, Jésus passant, les disciples de Saint Jean-Baptiste partant avec Jésus, il nous racontait ça, il nous parlait de ça, on a l'impression d'y être, quoi. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous permette d'évoquer ces images si elles nous touchent, et puis de nous conduire ensuite dans un chemin où notre ego, quelquefois un peu récalcitrant, fait des siennes et des quelques ruades.
On l'a évoqué déjà précédemment qu'elle avait eu une force de réalisation assez conséquente, elle a fondé cet ordre, l'ordre de la charité.
Les foyers de la charité.
Les foyers de la charité.
Les foyers de la charité. Il faut bien qu'on comprenne le principe. Le principe, c'était faire vivre ensemble un prêtre et des laïcs. C'était ça le but. Alors, les laïcs et tout ça, essayant de vivre le plus possible en autonomie, ce qui n'est pas toujours possible. Et donc, ça permettait de faire rentrer l'enseignement chrétien avec des laïcs qui voulaient s'imprégner, qui voulaient aller plus loin dans leur vie spirituelle. C'était une forme d'accompagnement, puisque tout à l'heure, on disait qu'il faut qu'il y ait une transmission avec... Donc, il y avait Marthe Robin, et puis il y avait les foyers de charité avec... un prêtre qui était prédicateur, donc comme le Père Monnier par exemple dont je parlais tout à l'heure, et puis les laïcs qui étaient là et qui avaient envie de faire progresser leur vie spirituelle. C'était ça le principe.
Et donc ça, c'est toujours actuel, c'est toujours en place dans 80 pays dans le monde, si
alors vous... pas 80 pays, il y a 80 foyers de charité dans le monde. C'est toujours pareil, il y en a des plus ou moins grands. C'est vrai que celui de Châteauneuf-de-Gallore est très 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 important. Il y en a où ils sont très peu, il y en a en Afrique, il y en a après, je crois qu'il faut aller sur le site pour voir tout ça, parce que moi j'ai pas une connaissance très précise de tout ça, mais il y en a donc beaucoup et qui vivent sur ce même principe.
Ça offre quoi à des retraitants? Alors, donc justement, vous m'avez dit de vivre des moments reclus, des périodes de retraite avec un prêtre et d'autres laïcs.
Alors, il y a le foyer de charité avec des gens qui habitent ici, donc des laïcs qui habitent ensemble et avec un prêtre qui habite là, donc ils ont des lieux. Et puis, il y a les retraites. Alors, les retraites, c'est pour des gens extérieurs. Donc là, c'est sur une semaine, vous venez, vous partagez la vie de la communauté et en même temps, on reçoit un enseignement auquel j'ai participé quand j'étais petit, comme je dis. Sur l'évangile, sur je sais pas, sur telle partie, sur là le programme je ne le sais pas parce que c'est trop loin de moi quand j'étais petit puis j'y suis pas retourné, mais peut-être j'irai bien en suivre un jour. Mais ça vous trouvez ces retraites, il y a des retraites fondamentales et puis des retraites à thème je crois, donc ça il faut aller voir sur le site.
Et c'est toujours disponible.
C'est toujours ouvert, c'est toujours disponible, ça existe. J'ai rencontré donc comme je disais récemment il y a quelques jours Paul Guillet qui est venu parler de Marthe Robin à l'Aube dont je suis responsable à Pierrot-Laclastre et il nous a bien dit qu'en effet ces retraites existaient et que voilà, il nous a amené les documents que je n'ai pas là, mais il y a des documents où on a tout le programme des retraites. Comme ça, comme vous disiez tout à l'heure, ceux qui veulent se rapprocher de cet enseignement, eh bien, ils ont comme ça l'occasion de venir 5-6 jours se baigner dedans, poser toutes les questions et puis voir si ça leur convient ou pas et si ça leur convient rester, si ça leur convient pas, chercher la forme qui leur conviendra parce que ce qui compte, c'est trouver la forme qui nous convient pour évoluer.
Et déjà, se payer un petit break par rapport à un univers qui peut être un peu oppressant.
Ah ben c'est sûr, se payer un petit break, se payer un recul, ça c'est un sujet encore plus vaste que Marthe Robin avec les foyers de charité. C'est à quel point nous devrions devions tous, une fois par an, nous reculer de notre propre vie pour faire le point, pour savoir si on va bien dans la direction qu'on voulait, pour resituer cette direction. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler plutôt un stage bilan, un stage recul. Et ça, nous, par contre, ça, on le fait aussi chez nous. Il y a plusieurs endroits où ça se fait, mais nous, on le fait à pied gros. Et puis, ça se fait aussi donc, dans le centre dont est responsable Bernard Manteau à Touche Noire, près de Châteauroux. Donc ça, puis il y en a bien d'autres. Mais ça, je crois que c'est une notion extrêmement importante, c'est que nous devrions tous, de temps en temps, nous arrêter. Parce que si vous voulez, le bateau de notre vie, il avance, mais si on ne fait pas le point pour savoir si on est bien dans la direction qu'on veut aller, et s'il n'y a pas eu des vents contraires, des caps, des machins, des courants qui nous ont dérivés, on arrive à la fin de sa vie, on dit « mais c'est pas là que je voulais aller, moi, je n'avais pas prévu ça du tout ». Et donc c'est pour ça que c'est très important, une fois par an, au moins de s'arrêter. Et peut-être chez Marthe Robin, n'importe où, mais de s'arrêter. Enfin, chez Marthe Robin, c'est pas n'importe où, excusez-moi.
Oui,
le principe, je défendais le principe même.
Oui.
Mais je vous dis, moi, je ne me présente pas comme un spécialiste de Marthe Robin, mais comme quelqu'un qui est imprégné. Et je crois qu'après, ceux que ça intéresse, ben, il y a les livres, il y a le centre, il y a des gens beaucoup plus, qui l'ont beaucoup mieux connu et qui peuvent en parler. Donc allez-y, n'hésitez pas. Châteauneuf, c'est pas loin.
Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a encore des gens que cela intéresse, et ça, c'est rassurant, parce qu'il n'y a pas que des gens qui baignent dans un monde impitoyable tel que je le décrivais, matérialiste et près des choses. Il y a encore des gens qui s'intéressent à des considérations. Est-ce que si je peux me permettre, j'adore cette petite phrase, je vais donc vous la citer, c'est « In circuitu impi ambulante ».
Redite.
C'est du latin. Alors, ça veut
j'étais
dire...
mauvais élève, excusez-moi.
Alors, je vous en prie, mais c'est pas grave, une fois que je vais la traduire, vous allez abonder, c'est « En circuit fermé, tournent les impies ».
Ah oui, bien sûr.
C'est-à-dire qu'ils sont bloqués sur un plan de l'existence. Ils ne peuvent pas transcender, ils sont que dans la matière.
Eh oui, c'est sûr.
Et
c'est sûr.
Ils n'ont pas ce recul dont vous parliez précédemment. C'est qu'il faut faire, il faut y aller, il faut payer ses factures, il faut réussir professionnellement, il faut voter parce qu'on est un bon citoyen. Il n'y a pas de recul.
Mais je crois que alors là, ça touche encore une autre question. On a évoqué ensemble ces reculs annuels, mais je crois que dans toute journée, nous devrions avoir un temps de recul. Moi, j'ai mis beaucoup de temps parce que, comme vous le dites, c'est très dur avec tout ce qu'on a à faire, les factures à payer, la voiture qui a une panne, les enfants à l'école, le machin, le truc. On est tellement pris par cette vie qu'on oublie que notre vie intérieure a besoin d'un peu d'air, un peu d'espoir. Et que dans la journée, prendre un temps pour aller se tourner vers soi-même, vers cette vie intérieure, et être un peu une certaine tendresse envers soi, quelle que soit la forme, moi ça m'a paru tellement essentiel maintenant que j'ai une pratique comme ça tous les jours. C'est devenu, mais j'ai mis beaucoup de temps parce que la vie extérieure est tellement prenante et que c'est une bataille d'instaurer ça dans sa propre vie. Mais ça me paraît essentiel d'avoir une respiration, un temps de silence, un temps de recul, un temps de paix dans chacune de nos journées si possible. Mais ça c'est une histoire complexe et là peut-être qu'il faut être accompagné. Il faut être accompagné parce que, ou à moins d'être très fort, peut-être, ou d'avoir, comme vous, beaucoup navigué, et donc d'avoir compris l'importance de tout ça. Non, mais vous avez fait beaucoup de choses.
Je rejoindrai Marthe Robin sur ce point. Je suis tellement petit et insignifiant.
Je suis d'accord avec vous, on est tous petits et insignifiants.
Et on fait tellement ce qu'on peut. Moi, la conclusion ultime de tout ce que j'ai pu vivre. On faisait vraiment ce qu'on pouvait, quoi.
On fait ce qu'on peut, on fait au mieux, et ce qu'on fait est petit, mais ça existe. Et là aussi, il y a l'histoire du colibri, la légende du colibri. Qui est, vous la connaissez, je pense. Oui. On peut le raconter rapidement. Donc, le colibri, il y a un énorme incendie et le colibri va chercher de l'eau dans son petit bec et puis il lâche l'eau sur l'incendie et tous les autres animaux lui disent « Mais tu es fou, ça sert à rien, c'est ridicule. » Il dit « Oui, j'ai un tout petit bec, j'ai rien, j'ai très peu d'eau, mais j'aurais au moins fait ce que j'ai pu. »
Et je fais ma part.
Et je fais ma part. Voilà, mais vous la connaissez mieux que moi.
Non, mais il n'y a pas de souci, c'est une belle
c'est
image.
Beau, ouais. Parce que c'est ça qu'on a comme sentiment, c'est qu'on ne fait pas grand-chose, mais qu'on fait ce qu'on peut.
Eh bien, monsieur Rennes, je vous remercie de votre témoignage sur Marthe Robin. C'est courageux parce que c'est pas dans l'air du temps.
Non, pas du tout.
Hein. D'ailleurs, moi je suis entouré de bouffeurs de curés.
Alors les bouffeurs de curés, ils doivent être maigres parce qu'il y a de moins en moins de curés. Hein.
Ah oui, c'est ça, mais par contre, il y a toujours une dent contre une religion qui aurait opiumisé le peuple.
Ah oui, bien sûr, bah oui.
Ça, c'est universellement répandu tout oui. autour de moi. Et donc, c'est très bien qu'il y ait des prises de position. Dieu n'a pas besoin d'être défendu, hein, ça c'est sûr. Hein. Il n'a pas besoin de vous pour exister. Mais pour rappeler quand même qu'un autre monde est possible. Et surtout, un autre monde spirituel, quoi, en fait.
Je peux dire un petit mot.
Mais je vous en prie.
Parce que ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup aussi. C'est-à-dire que on s'aperçoit qu'en fait, l'humain, moi compris, bien évidemment, mais maintenant j'essaye de progresser dans cette direction, il y a des tas de choses où on a plein d'avis sur des choses qu'on ne connaît pas. Ça, c'est extrêmement fréquent. Et donc, quand j'entends parler de mouvements comme ci, de mouvements comme ça, de sectes, et qu'on demande aux gens, alors vous connaissez, vous êtes allé voir, souvent ils connaissent, mais alors rien. Et en particulier, il se trouve que dans une rencontre médicale, que je ne citerai surtout pas parce qu'autrement ça ferait du mal à l'être en question, comme ça, dans une conversation, il y a quelqu'un qui a dit on a déjà Marc Robin, cette espèce de dingue, c'est bon, parce qu'en parlant d'autre chose. Et ça m'a profondément blessé, et je lui ai dit, mais tu es allé à Châteauneuf, tu connais Marc Robin ? Non, mais en fait, tout le monde sait que c'est une débile, quoi. Et je crois que cette chose qui est dite par lui, elle se retourne vers moi. Et je me dis, est-ce que j'ai pas quelquefois des avis sur des choses que je connais mal ? Et je me méfie beaucoup de ça. Et je crois que, par exemple, nous avons des avis qui nous font dire, ça c'est secte, ça c'est ci, ça c'est ça. Ben alors, moi je dis toujours, mais venez, vous connaissez ? Vous êtes venu voir ? C'est quoi une secte ? C'est quoi ci ? C'est quoi ça ? C'est quoi cette façon de juger ? De juger, de dire ça c'est bien, ça c'est mal. Qui nous sommes pour dire c'est bien, c'est mal ? Qui nous sommes ? Moi, en tout cas, je peux pas. Et j'essaie de le faire le moins possible. Mais quelquefois, je me trompe.
Car vous êtes un être humain, mais néanmoins sur le chemin.
Voilà.
Monsieur Rennes, je vous remercie beaucoup de votre témoignage et je vous souhaite une très bonne continuation.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Interview. 1. Terre.
Hey, the bird.
L'interview du jour.